Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions, prendre la parole dans la salle sur l'enquête de Stéphane Florent, sur sa méthode?
J'ai souvenir d'avoir croisé un jeune homme qui venait du Sénégal, qui venait sans doute d'une bonne famille au Sénégal, qui avait été étudiant pendant près de 10 ans en France, qui avait échoué à un examen. Et à partir du moment où il avait échoué à l'examen, la préfecture a considéré que, puisqu'il redoublait, il fallait plus lui donner de titre de séjour. Et il s'est retrouvé dans ça du jour au lendemain en situation irrégulière suite à son échec à l'examen. Et donc lui, il a vécu l'enfermement en rétention de manière extrêmement violente. Alors qu'il a vécu en France de manière régulière, il avait sans doute beaucoup de moyens. Il me racontait qu'il était, il me racontait un peu la vie qu'il menait. Et le fait d'être traité par la violence de la rétention, il l'avait vraiment vécu de manière extrêmement forte et dure. Il avait des mots très durs envers Nicolas Sarkozy, que je ne vais pas répéter parce qu'on a enregistré. Et lui, il est rentré au Sénégal. C'est partie des très rares personnes dans mon enquête qui sont retournées dans leur pays d'origine. Et pourquoi il est rentré, lui, et pas d'autres? Parce que lui, il avait les moyens d'un retour. Il savait qu'en retournant, il pourrait trouver une situation auprès de sa famille, qu'il n'aurait pas trop de difficultés à trouver un travail, que le temps qu'il a passé en France, même s'il n'avait pas tous les diplômes prévus, il serait quand même possible de les rentabiliser au pays, puisqu'il avait quand même un certain nombre de diplômes qu'il pourrait faire valoir. Et donc, il fait partie des très rares personnes qui sont reparties. Rares personnes, c'est-à-dire lui. L'imam dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui lui, arrêté, avait dit, bon, de toute façon, la France a besoin d'imams comme moi, je rentre et je reviendrai. Et un troisième, qui lui était en couple avec une Française, c'est une très longue histoire, mais ça va pas répondre à votre question, mais je vais quand même la raconter. Arrêté, il s'est rendu compte que bon, la régularisation serait très compliquée. Il a voulu se marier avec sa conjointe qui n'était pas forcément prête à ce moment-là à se marier. C'est aussi un des effets de cette politique, c'est qu'elle s'immisce dans l'intimité. Alors que la question du mariage se pose dans des relations qui parfois ne sont pas du tout prêtes ou mûres, ou que la question du mariage n'était pas envisagée. Donc, lui, quand il avait dit à sa compagne, est-ce que tu peux déjà te marier? Elle avait dit non, je ne sais pas. Ou il a dit, moi, je rentre au Mali et je vais faire une demande de visa, je vais revenir. Sauf qu'une fois que vous avez été arrêté, expulsé, le retour, c'est une chimère, puisque vous êtes vraiment dans tous les mauvais fichiers de l'administration, donc vous n'aurez pas de visa. Donc, une des possibilités pour revenir, c'est de traverser clandestinement au risque de sa vie. Ce qu'il n'avait pas à l'époque, c'était un peu moins massif qu'aujourd'hui. Il n'avait pas du tout cette idée-là. Il était parti en disant, bon, bah, je pars 6 mois au Mali, et puis je vais revenir, on se mariera, ou en tout cas, je vais régulariser ma situation. Ça a duré plus d'un an et demi. Finalement, elle a dû partir au Mali, se marier, faire reconnaître le mariage au consulat. Et pendant cet un an et demi où il était parti, moi, j'ai continué à avoir un peu de discussion avec cette dame. Et je me rappelle un entretien que je faisais avec elle, où elle était. C'était une des choses que j'avais notées, mais je n'ai pas pu dire, c'est que en passant par les marches, comme ça, en fait, on découvre le fonctionnement de l'administration, on découvre l'État. Moi, en tant que blanc, ayant grandi en banlieue parisienne, plutôt bourgeoise, l'État, c'était une fiction assez lointaine. Je parlais avec des gens pour qui l'État, c'était quelque chose de très concret. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois les contrôles, la justice, l'administration, la préfecture, mais c'est vraiment des personnes. Et donc, elle me racontait comment, pendant toute cette période, elle avait un deuxième travail. Elle travaillait le jour et la nuit, elle avait un deuxième travail qui était au maire de sa ville, essayer avoir des témoignages sur la probité de son conjoint. Enfin, elle avait vraiment un deuxième travail qui était essayer de faire revenir David, il s'appelle toujours, vers la France. Et elle me disait, moi, je découvre l'administration. Je ne pensais pas que c'était si froid, je ne pensais pas que c'était si dur. Elle avait, pour la première fois, été confrontée à l'état de son pays de naissance, auquel elle avait, comme moi, sans doute des rapports assez lointains, elle paye ses impôts. Voilà. Donc là, elle découvrait la froideur de l'administration, la dureté de l'administration. Puis à la fin de notre entretien, je l'ai accompagnée à sa voiture. Conseil pour les étudiants, raccompagner les gens en voiture. Et elle me dit, mais moi, dans tout ce que j'ai dû faire, dans tous les rapports que j'ai eus avec l'État, il y a des choses très vraies qui sont sorties. J'ai écrit des choses, vraiment, je ne pensais pas aller jusque-là. J'ai écrit des lettres au préfet où je leur disais, de toute façon, quand on tombe amoureuse, on ne demande pas les papiers. L'amour n'a pas de visage, l'amour n'a pas de papier. Et puis en fait, c'est pas à l'État de choisir pour moi si je dois être amoureuse ou non, c'est moi qui dois choisir. Et dis-moi, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait nous laisser le temps et à la fin, si je l'aime vraiment, on lui donne des papiers. Et là, je la regarde, je dis, mais en fait, ça devrait être vous la préfecture. Elle me dit, oui, ça devrait être moi la préfecture. Donc c'était un peu une provocation de ma part, mais ça montre bien ce qui se joue aussi pour les sans-papiers. C'est que quand on est dans une relation amoureuse, votre conjoint français, c'est un guichet de plus vers la préfecture. Si du jour au lendemain, la personne à qui vous êtes vous dit, en fait, c'est fini entre vous, eh ben, vous allez en rétention. Et si et des personnes en rétention que j'ai vues parce qu'ils avaient divorcé et que l'État refuse de renouveler un titre de séjour parce que la relation s'arrête, eh bien, ils se retrouvent en situation régulière. Donc, c'était un exemple un peu extrême, mais de montrer comment, quand on est en situation irrégulière, finalement, n'importe qui potentiellement peut prendre le pouvoir sur vous. Une conjointe, un ami, un employeur peut jouer de la situation irrégulière comme un instrument de négociation en situation. Le patron va vous faire accepter des conditions de travail défavorables. La conjointe, au moment où elle considère, ou le conjoint, je donne ça au féminin parce que j'ai beaucoup rencontré d'hommes, et c'est, l'inverse est aussi vrai, la conjointe ou le conjoint qui, de tout d'un coup, n'a plus envie de produire la relation, peut concrètement faire expulser son compagnon, le mettre en situation irrégulière. Donc, ce qui m'a marqué, et je me posais la question de jusqu'où la situation irrégulière a un impact, c'est que ça s'immisce dans les relations les plus intimes, dans les rapports de face à face où la préfecture, la police, normalement, n'est pas là. Mais quand cette dame me dit ça devrait être moi, la préfecture, c'est quelque part, elle invoque dans une relation de face à face un troisième membre, l'État, la police, la préfecture, qui va devenir un intermédiaire de cette relation. Juste pour répondre aux questions, justement, moi, un des enjeux, ce que j'expliquais tout à l'heure de ce travail, et c'est pour ça que il a eu du temps, et je pense que l'anthropologie, c'est aussi des allers-retours, des apprentissages, des désapprentissages, c'est que justement, j'ai essayé de m'éloigner le plus possible des définitions administratives. C'est-à-dire que je me suis intéressé aux effets d'une politique, mais je n'ai pas cherché à définir qu'est-ce qu'un migrant, qu'est-ce qu'un paramigrant. Moi, ce qui m'a intéressé à voir, c'est ce que ces politiques faisaient aux personnes qu'elle ciblait. Donc, je n'ai pas forcément de définition à vous proposer. Dans les travaux qu'on a fait par la suite, disons, parce qu'on était tout un programme de recherche, on a utilisé le terme migrant, non pas avec une définition stricte, mais justement pour définir toutes les catégorisations administratives de personnes qui sont considérées comme migrants. Donc, c'était plutôt le regard sur la manière de catégoriser des personnes comme migrants qui nous intéressait. Et juste pour répondre sur la question des Dublinais, ça, c'est aussi un des effets des dernières années. Et c'est quand on regarde vraiment en détail les chiffres de l'expulsion, on voit que les gouvernements successifs se targuent d'expulser de plus en plus d'étrangers parce qu'il y a de plus en plus de places de Dublinais dans le chiffre des expulsions. Jusqu'en 2006, les réadmissions n'étaient pas considérées comme des expulsions. En 2006, quand il a fallu faire du chiffre, il a fallu montrer que la politique était efficace, parce qu'il y a quand même aussi, derrière la politique de la peur, il y a aussi l'idée qu'on crée la peur de l'étranger pour y répondre. On dit, voilà, c'est les étrangers vont voler leur travail, abusent du système social, enfin, tout ce que vous connaissez comme discours, enfin, les étrangers en situation irrégulière. Et donc, on crée une peur à laquelle on propose de répondre soi-même. C'est un peu un jeu très politique aussi. C'est-à-dire que ça permet de justifier son efficacité. Il y a plein de théories qui disent que, puisque l'État est de moins en moins compétent pour gérer les questions économiques, puisque ça leur échappe complètement, ils se resserrent sur les choses sur lesquelles ils peuvent démontrer leur puissance. Et ça revient à ce qu'on disait, parce que Maya disait en introduction, sur la démonstration de la puissance, il faut montrer qu'on est efficace. Et donc, on va faire gonfler les chiffres, on va expulser de plus en plus, mais quand on regarde en détail, un Dublinais, c'est quelqu'un qui a un dos, enfin, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est vrai que là, un Dublinais, c'est quelqu'un qui est rentré en Europe par un pays, ses empreintes ont été prises dans ce pays, et s'il arrive en France, par exemple, les accords Dublin au niveau européen stipulent qu'il faut que la demande d'asile soit instruite par le pays de première entrée. Ce qui crée une sorte de circulation générale de personnes en Europe, où la majorité des personnes arrivent par la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Ils arrivent en France, en Allemagne, on les renvoie vers l'Espagne, l'Italie, après avoir attendu quelques mois dans des centres d'hébergement ou d'enfermement, suivant la chance de chacun. Ils repartent en Espagne, où ils vont faire une demande d'asile qui va ou non aboutir, ils vont revenir ailleurs. Enfin, vous voyez, ça crée une sorte de circulation générale comme ça de personnes sur le territoire européen, qui est une forme de gouvernement aussi par la dispersion. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous parlais de l'enfermement dans une NAS, dans le fait d'être enfermé localement. Une autre manière de gouverner, c'est de faire circuler, d'empêcher l'installation. Et ça, quand on regarde un peu les travaux sur le gouvernement colonial, c'était aussi la manière de gérer les populations qui étaient incontrôlables. C'est-à-dire qu'on les faisait, on les empêchait de s'installer, on les faisait circuler. La mise en circulation forcée est une des formes de gouvernement actuel de migration. Alors, j'ai répondu presque à vos questions, mais pas du tout.
Il en reste une ? Ouais. C'est la question de la patrie.
J'en ai rencontré, mais leur situation, elle est un peu complexe, parce qu'ils sont par définition expulsables nulle part. Parce qu'il n'y a pas de pays qui va les reconnaître. Donc, j'ai rencontré une fois, en fait, une personne. Mais le problème, c'est que, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je n'étais pas un juge. Quand les gens me disaient « je suis apatride », je leur disais « d'accord ». Mais je ne sais pas, en fait. J'avais pas je ne peux pas dire effectivement il était ou non. Moi, j'ai rencontré une fois une personne qui m'a dit « je suis apatride, on ne peut pas m'expulser ». J'ai dit « bon, d'accord, je vais l'informer à la préfecture ». Après, ce qui est... et c'était aussi une des difficultés de l'enquête, c'est que je ne savais pas ce qui se passait après. Beaucoup ont disparu. J'ai rencontré des, je sais pas, 500 personnes en rétention, j'en ai suivi 40. Sur les 40, il y en a 10 vraiment à qui j'ai vraiment mené le temps très long. Et le temps très long m'a permis aussi de découvrir ce qui se passait après la régularisation. Ça, c'est un autre aspect, mais c'est pour revenir sur cet apport du temps long dans la recherche.
D'autres questions ou commentaires?
Juste pour rebondir sur la première partie de votre prise de parole, c'est des choses que moi dans ce travail-là, je n'ai pas trop observé justement les mouvements de solidarité, mais par la suite, dans ce que citait Maya à la suite de ce qui était un postdoc, on a beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé avec la dite crise migratoire de 2015 et tous les mouvements de solidarité. Et ce que vous décrivez est assez, se répète un peu partout, c'est que pour beaucoup, c'est parti d'un engagement un peu, ils le diront, enfin, ils le disaient comme ça dans les entretiens, c'est-à-dire quelque chose de spontané. C'est-à-dire quelqu'un en bas de chez moi a l'air d'avoir faim et froid, je lui apporte à manger et une couverture. Et puis au fur et à mesure, on continue, on essaie de voir ce qu'on peut faire de plus et on commence à justement rentrer dans les rouages de quelles sont les conditions de régularisation, de ce qu'on peut faire d'un point administratif. Et ce que vous décrivez là d'une découverte du fonctionnement de l'État, beaucoup l'ont vécu et ça parfois découragé. Donc les personnes se sont retirées en disant non, là c'est trop compliqué, c'est trop douloureux, ou au contraire, transformer ce mouvement spontané au départ de j'apporte à boire, à manger et des couvertures en des formes de mobilisation politique où il y a une prise de conscience politique et des engagements qui se font sur un autre mode que le simple fait d'apporter un réconfort immédiat, mais essayer de penser plus généralement les effets de ces politiques et d'un engagement qui monte en généralité. Donc ça, c'est la première chose. Et ce que vous décrivez là, beaucoup, ce que vous décrivez à un moment sur l'apparente contradiction, c'est-à-dire que l'État donne l'aide médicale d'État et en même temps on veut expliquer. Alors pourquoi on permet aux gens de se soigner gratuitement et en même temps on veut les expulser? Les personnes en situation régulière le vivent aussi comme une contradiction. Je vous rappelle, je vous ai parlé tout à l'heure, mon interlocuteur originaire, je sais plus comment je l'ai. Le problème, c'est qu'ils ont ils sont anonymisés dans le livre, donc je me perds un peu dans les. Son vrai nom me vient en tête. Bon, et lui me disait, mais je comprends pas, d'un côté l'État veut m'expulser, en même temps ma femme est enceinte et je peux avoir des coupons pour avoir du lait gratuitement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette cohérence? Alors, si on regarde, enfin, de manière générale, c'est pas si compliqué à comprendre. L'État n'est pas quelque chose de monolithique, c'est pas justement une personne qui aurait une intentionnalité, mais c'est des rapports de force, c'est des logiques différentes. Les ministères différents n'ont pas forcément la même politique. La logique de gouvernement, de population, de santé générale de la population parfois prédomine sur les objectifs sécuritaires. Il est important que la population en France, quelle que soit sa situation, soit vaccinée contre le Covid, par exemple, quel que soit le statut administratif de la personne, puisque c'est une politique générale de réduction des risques. Donc, il y a des choses qui peuvent comme ça paraître contradictoires, qui ne sont pas tant que ça si on regarde de manière plus générale, en tout cas qui montrent des tensions et des rapports de force différents au sein de l'État, qui n'est pas quelque chose, c'est pas une entité unique et qui aurait une seule rationalité. Mais pour les personnes qui le vivent, parfois ça rajoute à la confusion. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que de recevoir de l'aide et en même temps qu'on cherche à m'expulser? Est-ce que c'est un piège? Et je me rappelle, par exemple, Massaris Soko, à un moment, il y avait eu une annonce qui disait « Si vous permettez de démanteler les filières de migration clandestine, si vous dénoncez vos passeurs, vous serez régularisé. » C'était, comment s'appelait ce ministre de feu, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Bon, peu importe. Et c'était avant Hortefeux. Bon. Et j'en parlais à Massaret Soukou, je lui ai dit, mais t'as vu, peut-être, enfin, je ne lui ai pas dit que tu fais dénoncer ton passeur, ça n'a aucun sens, mais j'ai dit, t'as vu cette possibilité? Il m'a dit, mais toi, tu crois à ça? C'est évidemment un piège. C'est évidemment un piège. Donc, vous voyez, cette contradiction apparente contribue à construire ce rapport au fait qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et par exemple, mon interlocuteur, le pseudo m'échappe, me disait, mais moi, j'ai jamais touché un centime de l'État. Et cette volonté de dire, même si je pouvais demander des aides, je ne les ai jamais demandées, c'est quelque chose qui revenait très souvent dans la bouche de mes interlocuteurs pour justement se défaire de cette image du profiteur, du fraudeur. Alors après, sur la question, plus d'un panorama plus général, évidemment, les gens qui sont en rétention aujourd'hui, si on regarde les chiffres, en tout cas, ceux qui sont massivement expulsés, c'est principalement les personnes d'origine maghreb, et, comme en Algérie, Maroc, et Sénégalais et Maliens viennent dans les premiers. Alors, il y a aussi des pays européens, parfois, puisque c'est assez facile d'expulser vers la Roumanie, vers la Bulgarie. Malgré le fait qu'ils soient rentrés dans l'Europe, ils continuent à être expulsés sous couvert d'autres formes de procédures, en considérant qu'ils abusent du système de santé, qu'ils abusent du système de solidarité. Donc il y a une continuité, malgré l'entrée en 2007 de ces pays dans l'Union européenne, on voit qu'il y a une continuité en fait, d'expulsion très rapidement avec ces nouvelles encadrements, ils continuent à être expulsés. Et moi, ce qui m'a surtout intéressé, au-delà de moi proposer une cohérence ou une lecture historique, de dire voilà, les anciens colonisés sont les actuels expulsés, de constater que ce discours-là est très peu tenu, que justement le rouage administratif, le travail avec le droit, tout ça fait que ce type de discours-là disparaît un peu, mais que les personnes en rétention, eux, sont les premiers à le mobiliser, le premier à lire ce qu'ils vivent à travers une explication et un grille de lecture coloniale, postcoloniale, et que c'est les premiers à donner ce sens-là. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des gens qui disent, moi, j'ai été éduqué par des pères blancs en Algérie, on m'expulse comme ça, parce qu'il y a plein de motifs de... Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le corollaire de ce que je vous décris, du fait que on pense qu'il y a des failles, que certains vont bénéficier, d'autres non, de la régularisation, qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'il y a toujours aussi cette idée, et ce qui est un peu une des explications pourquoi les solidarités sont difficiles parfois à prendre, c'est que beaucoup se disent, si je suis régularisé, ce sera à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, on n'échange pas forcément entre collègues des tactiques ou des failles qu'on pourrait connaître. Et donc, ça participe en fait de cette atomisation où chacun imagine qu'il va pouvoir bénéficier à la place de l'autre d'une régularisation. Mais en rétention, peut naître un discours commun. Nous, on est tous en fait des anciens colons, enfin, des anciens colonisés, pardon. Et on est traité de la même manière. Et juste pour finir par une petite anecdote qui m'a été racontée. Un jour, j'ai pas assisté à la scène, mais on m'a raconté. Un jour, dans le centre de rétention du Midi-Namlo, il y avait un début d'incendie. Tous les retenus ont été placés en gymnase à l'extérieur. Alors que, contrairement au local que je vous ai décrit, les centres de rétention, le principe, c'est qu'il y ait très peu de face-à-face avec la police. Les policiers gardent les clôtures. Les portes s'ouvrent, se ferment. Il n'y a pas vraiment ce face-à-face comme moi, je l'ai vu et vécu dans le local de rétention. Mais là, le fait qu'ils étaient tous dans la cour pendant que l'incendie était en train d'être éteint au sein du centre, il y avait un face-à-face derrière la grille du gymnase. Il y avait les gendarmes d'un côté, puis tous les retenus à l'intérieur. Et puis, il y a une discussion qui commence entre un Algérien et un gendarme. Et le gendarme lui montre sa carte d'identité en disant, voilà, moi j'ai ça, toi tu ne l'as pas. Et l'autre lui a dit, mais moi je viens d'Algérie. L'Algérie, c'était français avant, donc pourquoi je ne peux pas venir chez vous alors que vous êtes venu chez moi? Et le gendarme lui répond, oui, mais nous, on est venu, mais on est parti. Et le jeune lui répond, bah, laissez-moi 100 ans et je rentre.
D'autres questions, interventions, oui.
Alors moi, je ne suis pas juriste. Et j'ai vraiment une démarche d'anthropologue. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai cherché à comprendre, c'est ce qui vivaient les personnes placées sous cette menace. Alors là, il y a à la fois l'entrée... par la situation des personnes en situation régulière, mais de manière plus générale, un peu plus théorique, un peu plus conceptuelle, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que ça veut dire que vivre au contact du danger. Et ça, là, c'est le cas des sans-papiers qui m'a intéressé, mais l'idée, c'est que ça peut aussi se reporter ailleurs. Et ce qui m'a un peu marqué dans les lectures que j'ai pu faire, c'est que les situations que je trouvais de confusion, de méfiance généralisée, de qui est qui, les comparaisons les plus pertinentes, en tout cas les lectures que j'ai pu faire qui me renvoyaient à des situations qui me paraissaient relativement comparables, c'était des situations de guerre civile ou d'oppression étatique massive. Enfin, ce qui est quand même dit quelque chose de ce que vivent les sans-papiers, même si ce n'est pas, bien sûr, toute chose égale, enfin, que ce n'est pas du tout comparable de la même manière. Alors, la question de transformer le droit, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas expert en droit et je n'ai pas de prétention à renforcer le droit. Et puis, mais plus généralement, là, et c'est une question qu'on me pose parfois quand je fais des présentations, je me dis, mais alors, qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut changer ça? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ça. Alors, il y a ce que l'enquête anthropologique informe en tant que citoyen. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas en tant qu'anthropologue, mais c'est en tant que citoyen informé par une enquête anthropologique. La première chose qu'on peut considérer, enfin, la chose qui paraît évidente à regarder, c'est que c'est un système qui dysfonctionne, qui cause énormément de souffrance, qui fait des morts aux frontières. Enfin, ça produit il y a ces personnes qui se sentent diminuées. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont toujours dit, mais on n'est pas des hommes à part entière, on n'est pas des femmes à part entière, on n'est pas des hommes complets parce on est empêchés, on est diminués. Ce qui fait aussi, qui fait beaucoup écho au rapport colonial, où il y avait une sorte de démasculinisation, et qu'on retrouve aussi beaucoup là dans ces situations. Mais
Et
bon,
de bestialisation.
Donc voilà, le citoyen informé par son enquête dirait que le régime frontalier ne fonctionne pas, il est mortifère, il est inefficace et il est extrêmement coûteux. Donc il me paraît évident, mais là je parle en mon nom, hein, et non pas au nom de la recherche anthropologique, mais qu'il faut penser à un régime frontalier beaucoup plus souple, que les personnes puissent venir et repartir, et que la nasse qu'on décrit, il y a beaucoup qui disent, moi, je viens pour travailler 4-5 ans, pour avoir l'argent. Oui. Je me rappelle un de mes interlocuteurs qui disait, moi, il avait 50 ans, il avait un magasin de mécanique à Bamako, il a dit, moi, ma famille s'est agrandie, je n'ai pas assez de place à la maison pour les loger, je pensais venir 4 ou 5 ans en France, gagner de l'argent, construire un deuxième étage à la maison et pouvoir acheter un peu de matériel pour pouvoir faire de la mécanique auto et pour les camions. Sauf que tout ce que je vous ai décrit, il a été pris dans ces rouages-là, il n'a jamais eu assez d'argent de côté pour pouvoir envisager ce retour et construire. Donc, 10 ans après, il était toujours en France et était bloqué sur place. Donc, on peut déjà imaginer un régime frontalier beaucoup plus souple qui nous permettrait qu'il y ait une sorte d'égalité de déplacement. C'est-à-dire que nous, on peut aller en vacances dans les pays de ceux qu'on expulse. Et souvent, les rencontres se font dans les avions entre les touristes et les futurs expulsés. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que il me semble que un des objectifs quand on écrit un livre comme celui-là, et l'objet, je sais pas si c'était vraiment pensé, mais donc c'est accessible. Il y a pas, enfin, l'idée, c'est que ce soit accessible. C'est aussi justement de nourrir le débat public et que ça puisse permettre aux personnes qui, eux, sont engagées dans les formes, dans les réformes ou dans la manière de repenser ces politiques, de donner des arguments, des armes, pour pouvoir essayer de transformer ces choses-là. Mais c'est pas mon objectif en tant qu'anthropologue.
Peut-être une dernière question avec une réponse très rapide, monsieur.
Bon, moi, je vais poser une question un peu de technique et de méthode.
Ouais. J'ai du mal à m'exprimer, je n'ai jamais caché le fait que je faisais une enquête. Hein. Mais ce que je vous disais, c'est que quand je me présentais en tant que bénévole et chercheur, je ne suis pas certain que ça avait du sens. Mais j'ai vraiment mis un point d'honneur à toujours entrer dans le local de rétention et je l'ai tellement répété la phrase que je pourrais quasiment vous la sortir ce soir en disant voilà, je suis bénévole et chercheur et je m'intéresse à la vie des sans-papiers. Et effectivement, plein de gens m'ont échappé. Plein de gens ne m'ont jamais fait confiance. Et même des personnes avec qui j'avais une relation de longue durée me disaient à la fin d'un entretien, me disant, mais ce que je viens de faire, c'est que je viens de prendre un risque énorme. Je viens de te raconter ma vie. Ça se trouve, tu es un policier. Vous voyez, c'est ce doute sur qui est le policier, à qui puis-je faire confiance. J'en étais aussi un des personnes. Alors, il y a une réponse assez simple, mais qui est celle du temps. C'est-à-dire que la relation de confiance se fait avec le temps, mais il y a aussi un effet de contexte. C'est-à-dire que quand j'étais en rétention, je n'étais pas un agent administratif, mais j'étais un bénévole associatif qui, potentiellement, avait un rôle à jouer dans la régularisation ou empêcher l'expulsion. Je vais me faire taper sur la part Maria, mais je me rappelle avoir discuté une fois avec un monsieur qui s'appelait Mohamed Sankaré. C'est son pseudo. Et en rétention, il me dit, oui, je ne peux pas rentrer au Mali parce que j'ai une femme, 2 enfants en France. Et donc, je dis, bon, bah, bougez pas, ne vous inquiétez pas, ça, je sais faire. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, respect de la vie privée et familiale, je fais un recours, tout ça. Le lendemain, c'est pas l'article 8 c'est un peu vieux, donc j'ai eu un peu peur en disant, je vais peut-être lancer inutilement dans une précision que je ne maîtrise plus. Et donc, je fais un recours, je le faxe au tribunal administratif. Et sa rétention n'est pas prolongée pour les raisons que vous connaissez. Il sort le lendemain et je lui donne rendez-vous pour discuter parce que je commençais à faire un peu à sortir de la rétention pour enquêter. Et il me dit, je lui dis, bon, bah, j'aimerais discuter avec vous. C'était tout début de l'enquête. Et il me dit, bon, bah, très bien, venez chez moi. Et je dis, bah, non, chez vous, il y aura vos femmes, vos enfants, c'est un peu délicat, il vaut mieux qu'on soit dans un café. Parce que ce sera plus simple pour discuter des questions un peu complexes de ce qui s'est passé en rétention. Ça fait, non, vous inquiétez pas, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, vous pouvez venir à la maison. Je sais qu'en 10 ans que j'avais des femmes et des enfants, vous allez faire un recours. Donc, je vous ai utilisé, enfin, en gros, il m'a utilisé comme une ressource parce qu'il connaissait, il avait déjà été arrêté. Donc, il y a aussi ça, en fait. C'est-à-dire qu'en rétention, la parole n'est pas libre parce que la parole peut expulser, la parole peut enfermer. Hors de la rétention, les choses sont beaucoup plus détendues. Et après, il m'avait expliqué, il m'a dit, en fait, j'avais une copine, ce n'était pas ma femme. Elle avait des enfants, ce n'était pas les miens. On avait l'intention de se marier, mais comment je peux me marier maintenant alors que je n'ai plus de travail et je suis en train de perdre mon logement? Je ne peux pas prendre en charge une famille. Donc, j'ai préféré qu'on se sépare. Et tout à l'heure, quand je vous disais que la politique entrait dans l'intimité, c'est un autre exemple d'effet concret où là, d'un côté, il a utilisé cette ressource pour essayer de bénéficier d'un recours qui potentiellement aurait pu au moins retarder son expulsion, voire l'empêcher, mais bon, ça a été compliqué parce que devant le juge, il faut quand même apporter des preuves écrites. Tout ça, c'est des tonnes de documents. Mais en tout cas, une fois sorti, il y avait moins cet enjeu de dissimulation, de jeu sur la vérité. Donc, c'est aussi une des manières d'accéder à tout ce répertoire que j'essayais d'explorer dans le livre, c'est de justement sortir de l'attention. Et finalement, le projet de départ qui a été de faire toute ma recherche en attention n'a pas fonctionné parce que les portes ne se sont pas ouvertes, et heureusement. Et ça, une fois de plus, on en bénéficie quand on a le temps de se tromper, de faire des allers-retours. Une thèse en 3 ans, je n'aurais pas pu. Mais en 4 ans. Et en 5. Tu as longtemps. Je suis rentré la première fois en attention en décembre 2005. J'ai soutenu ma thèse en janvier 2015. Et voilà quoi. Mais alors, j'étais pas, en 2005, je n'étais pas encore en thèse. Hein. C'était le master, je vous rassure.